On parle avec Viviane Michel, qui on pourrait lister tout ce qu'est-ce qu'elle a fait, entre autres docteur honoris causa à l'Université du Québec d'Outaouais. Aussi ancienne présidente des femmes autochtones du Québec. Je ne commencerai pas à tout lister son CV, mais aujourd'hui.
Non, mais on va en parler un peu.
Oui. Mais aujourd'hui, elle est directrice des relations Premières Nations Inuit avec le Centre d'innovation pour les premiers peuples.
Bonjour, docteur.
Kouai, Viviane.
Je vous salue les gens qui écoutent.
Mikouet, Tchikasmetin. Donc, j'imagine que tu es encore sur la route. Je voyais ça, je pense, ce matin. Tu es tout le temps sur la route, même si tu n'es plus un pas sélectif.
Oui, je suis quand même très proactive encore. Je suis en direction de Gatineau pour aller avoir une rencontre avec mes collègues.
Bien, justement, tes collègues du Centre d'innovation pour les premiers plats. Est-ce que tu peux nous expliquer à moi et aux auditeurs, je ne connais pas ce centre-là, ce centre d'innovation-là. C'est quoi que ça fait, ça, ce centre-là?
Super. Bon, avant tout, je vais vous inviter à aller voir notre site web, évidemment,
oui,
pour avoir plus d'informations. Le Centre d'innovation des premiers peuples est né depuis 2012, OK? Et les cofondateurs sont Alexandre Bacon, qui est Inno de Mastoyash, et Marco Bacon, qui est Inno de Mastoyash aussi. Donc, c'est les cofondateurs,
okay,
de cette belle organisation. Donc, moi, je travaille avec le Centre d'innovation du premier peuple depuis la fin de mon mandat, qui a été le 5 décembre 2021. Le 6 décembre, j'étais déjà à l'emploi avec cette belle organisation. Donc, ça a été comme non-stop. Qu'est-ce qu'on fait au Centre d'innovation des premiers peuples? Nous, on fait beaucoup de la formation avec le numérique, la nouvelle technologie, évidemment. C'est beaucoup pour les jeunes décrocheurs des Premières Nations. Je trouve que c'est une belle initiative parce que nous, on cogne dans les communautés. Toc, 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 est-ce que vous avez besoin d'une formation pour vos décrocheurs? Avez-vous des décrocheurs? Nous, on va offrir une formation de 8 semaines avec la technologie, le numérique, l'imprimante 3D, faire des tasses, des t-shirts, etc. Donc, ils apprennent tout ça en 8 semaines. Et en plus, je dis toujours, c'est un clé en main. On a la formation nomade, ce qui veut dire on arrive dans la communauté, on offre la formation aux jeunes décrocheurs de 15 à 30 ans. Et en plus, on va offrir l'allocation de ses participants. Donc, c'est pas la communauté qui va allouer la location. C'est nous qui allons offrir. On a aussi ce qu'on appelle la formation féminine, OK, la formation justement Fab Lab féminin, qui est très différent. Puis encore là, je peux voir en tant qu'ancienne présidente de Femmes autochtones que la place des femmes, il faut toujours encore mettre un peu plus d'effort dans le sens, c'est que oui, on a un budget pour les femmes pour donner la formation, mais on peut pas donner la location. C'est ça qui est plate, mais on négocie toujours avec la communauté qui parfois est très recevable, comme présentement. Présentement, c'est la communauté de Naskapi qui est avec la formation des femmes.
À Kawawa-Shamak, dans le nord, dans le coin de Schefferville.
C'est ça, c'est bien ça. Et en même temps, ce qui est bien, c'est quand les jeunes décrocheurs viennent suivre la formation, il y a toujours des jeunes, certains qui sont plus, qui accrochent, là, qui deviennent des accros. Ça, c'est le fun de voir ça. Et nous, ce qu'on peut offrir après les 8 semaines, mais si ça tente, tu peux venir à Gatineau faire la formation de 5 mois pour devenir assistant instructeur et ou instructeur plus tard. Okay? C'est quand même bien. Puis on a toutes ces sortes de niveaux-là. Après avoir atteint cette formation-là de 5 mois, on peut encore offrir le perfectionnement un autre 5 mois justement pour aller un peu plus haut puis vraiment bien acquérir les connaissances qu'ils ont apprises pendant les 5 mois de formation.
Oui.
Donc, c'est ça qu'on offre à nos jeunes des Premières Nations à travers le Québec et Inuit aussi.
C'est une autre façon d'apprendre, dans le fond, pour peut-être les jeunes pour qui l'école coloniale, si je pourrais dire. L'école imposée, avec les systèmes imposés scolaires, ne répondrait pas à leurs besoins. Vous arrivez avec une autre façon d'apprendre puis qui correspond peut-être plus à leur réalité.
Oui, parce que ce que je remarque beaucoup, moi, c'est que quand les décrocheurs, ils deviennent plus manuels, hein, plus manuels qu'être assis à l'école, prendre des notes. Nos formations, c'est pas qu'il y a un instructeur en avant puis qu'on prend des notes. C'est qu'on est tout de suite dans l'action. Fait qu'on va tout de suite expérimenter les machines. Il y en a, il y a certains qui ne savent même pas travailler avec un laptop. On travaille beaucoup avec les laptops, ça, c'est sûr, faire le design. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, on est sur l'ère numérique, mais en même temps, on ramène nos gens, ce qui veut dire nos Premières Nations, d'être fiers de ce qu'ils sont et que les designs deviennent autochtones à leur couleur. Au début, ils vont faire des Pokémon, des Adidas, mais à la fin, là, on peut voir vraiment nos couleurs, nos canaux, nos temples, etc.
Viviane, est-ce que vous pouvez me donner une précision? J'aimerais savoir un exemple. Quand vous formez ces jeunes-là, vous y prenez différemment vos méthodes d'approche pour leur montrer l'utilisation du numérique. C'est différent de ce qui se fait chez les Blancs. Vous avez une approche complètement différente, non?
Oui, l'approche différente, c'est que nous, on est très flexible dans le sens, si on regarde l'approche des colonisateurs, l'approche des non-autochtones, les critères de sélection ou les critères d'admission sont très, très, très rigides. Tandis que nous, on ne va pas demander à un jeune pour moins que tu es en secondaire 3, 4 ou 5, non. Peu importe. Si tu es un décrocheur ou que tu ne travailles pas, on t'accepte en forme, mais la motivation doit être là. On commence et on doit finir. On travaille beaucoup la motivation. On sait qu'on a affaire avec des jeunes décrocheurs, donc on va beaucoup travailler. Lâche pas, on ouvre un moyen de communication qui est le Messenger, et là, on va les encourager. Là, on les lâche pas parce qu'on n'est pas sur place. Nos instructeurs sont sur place, mais la communication, elle est omniprésente.
Quand vous avez administré les Innus en particulier, mais d'autres organismes auxquels vous avez participé, vous avez toujours imprimé dans la façon de faire une façon résolument autochtone plutôt que de prendre des modèles déjà existants dans la société en général. Ça a toujours été vraiment bien adapté.
Oui, oui, puis peu importe avec quelle organisation on travaille. Exemple, maintenant, on est partenaire avec la Commission des ressources humaines des Premières Nations du Québec. On est partenaire parce qu'on se complète à quelque part, dans le sens, nous, on va faire la formation, eux vont viser beaucoup la formation, oui, mais l'emploi aussi, l'employabilité. Donc, on se complète, donc c'est une belle... on vient de signer justement une entente de partenariat avec eux autres. Et maintenant, ce que les gens nous demandent toujours quand on cogne à la porte des communautés, bon, mais qu'est-ce que ça va rapporter aux jeunes? Est-ce que c'est reconnu? Maintenant, on vient de signer avec les cégeps de l'Ottawa, justement, l'accréditation de nos formations. C'est quand même bien. Moi, je trouve que c'est un plus pour le jeune qui a lâché l'école, peut-on, mettons, en secondaire 1, puis quand même, il va voir quand même quelque chose, un beau start. Même si le jeune ne continue pas dans le domaine, ça lui donne au moins la soif de faire quelque chose de lui, soit de retourner à l'école ou de se trouver un travail dans la communauté.
Puis c'est ça, t'envoies des jeunes, j'imagine, qui se trouvent un travail après ou qui retournent à l'école?
Ah oui, j'en ai un là qui a fait la formation dans ma communauté, pas parce que c'est dans ma communauté, parce que ça a été mon premier défi quand j'ai commencé. On a un jeune décrocheur qui a lâché l'école en 2016, OK? Mais quand il a été dans la formation, un vrai mordu, il a trippé. Puis tout de suite après, il est reparti avec nos instructeurs pour faire le 5 mois à Gatineau. Présentement, il est assistant instructeur déjà reconnu. Et en même temps, il perfectionne son anglais. Il s'en vient vraiment pas pire. Et il commence à faire le secteur des Inuits avec ça. Imagine un francophone qui se retrouve dans un système complètement anglophone. Je trouve que c'est une belle évolution, vraiment. D'ailleurs, on l'a choisi pour venir dans notre communauté parce qu'il va voir le cercle économique. Je pense que c'est un bon modèle à montrer aux jeunes aussi, aux autres jeunes.
Il n'y a pas de plus grand plaisir, de plus grande reconnaissance que de voir le résultat comme ça positif quand on enseigne à quelqu'un. Hein?
Voilà. Moi, je pense que tout jeune qui soit décrocheur, qui a des problèmes sociaux d'alcool, de drogue, à sa place dans nos sociétés. Moi, j'y crois. Je travaille avec ces gens-là, je les côtoie, on les voit arriver, on les voit repartir. Moi, je pense que c'est ça, je pense que mon diplôme à moi, c'est vraiment ça, de les voir. Ah, ouais. Enfin, ils font quelque chose. Enfin, ils se découvrent dans leur potentiel parce qu'ils voient rien d'eux autres quand ils arrivent. Puis à un moment donné, ils voient, ils créent, ils ont la créativité, puis ils ont la motivation de faire quelque chose. C'est ça, je pense, notre gagne-pain à nous, là, c'est vraiment de voir ces jeunes-là qu'ils ont la place être quelqu'un.
Je vois que vous êtes basé dans la région de la capitale canadienne. Le Centre d'innovation des premiers peuples, la mission, c'est de rejoindre les Autochtones du Québec ou de partout dans le Canada?
Du Québec. On est encore du Québec. Plus tard, on visera le Canada.
OK.
On est au Québec et on fait aussi avec les Inuits. De plus en plus, on a des formations au Nunavik dernièrement. On parle ici à travers du Québec, les AIU, on a fait les AIU, on a fait les Innu, on a fait les Naskapi, les Anishinaabe, les Atikamekw aussi. Vous savez, les Atikamekw, eux, on a fait Opetchouan, Manawan, Ewemontachi. Maintenant, les Atikamekw ont leur fixe, ce qui veut dire ils ont leur propre Fab Lab. Nous, on peut accompagner les nations qui veulent avoir leur propre fixe. Et comme ça, continuer eux autres aussi avec leur propre père.
Est-ce que les succès que vous avez eus, dont vous parliez là tout à l'heure, est-ce que ça entraînait une demande encore plus forte de jeunes qui voudraient se joindre à vos formations?
Oui, de plus en plus. Maintenant, on a une cohorte de 5 mois ici à Gatineau. On a une cohorte de 17 jeunes et on est obligé de refuser pas parce qu'on n'a pas d'intérêt, c'est parce que c'est nous qui logeons aussi les jeunes quand ils viennent à Gatineau. Fait que la place où est-ce qu'on loge les jeunes est complète, c'est qu'on peut pas en prendre plus. Fait qu'on est limité à 17, 20 peut-être, mais c'est que c'est pas évident que tu couches avec un coloc dans le même lit. Donc, on essaie de respecter quand même le respect. La demande est très forte. De plus en plus, je pense que chez la Nation Innu, on a presque tout fait le tour. On a une autre demande de Natashquan. Bientôt, Mastoyash. En tout cas, moi, je tripe pour les jeunes, puis je tripe aussi pour le contact que j'ai avec ces gens-là.
Viviane, on va prendre une petite pause musicale. J'ai encore des questions à te poser sur le Centre d'innovation des premiers peuples, mais bien sûr, tes lumières sont tellement éclairantes que j'ai peut-être quelques questions d'actualité aussi à te poser.
C'est ça ce qui est bien avec Viviane, c'est que souvent on parle à des gens qui ont plein de théories, de bonnes idées, mais elle, c'est une praticienne,
ouais.
Une vraie.
Fait qu'on prend une petite pause, on te revient tout de suite.
Merci.
Viviane est toujours avec nous, Viviane Michel.
Oui, donc Viviane, tu nous dis que le Centre d'innovation des premiers peuples paye pour les formations. C'est comment que vous faites pour avoir ce financement-là? C'est des partenariats avec les gouvernements fédéraux, provinciaux, avec les communautés?
Oui. C'est vraiment, c'est dans les ententes de budget qu'on a.
Okay.
On inscrit l'allocation, évidemment. On fait affaire avec le MTESF, quelque chose comme ça, le ministère de l'Éducation. OK. Et on travaille aussi avec la patrimoine égalité et genre des femmes pour les femmes.
Okay.
Ça, c'est assez limité parce qu'on ne peut pas offrir l'allocation. D'ailleurs, on a eu une rencontre, puis moi, ben, tu me connais, hein, les clients, quand je suis pas contente, je le dis directement. C'est que j'ai dit encore les femmes qui vont partir, on sort un programme, mais on peut pas leur offrir l'allocation. Et ça, je suis comme un peu inconfortable quand je m'assois avec les communautés puis dire, ben on a une formation juste pour les femmes, sauf qu'on ne peut pas offrir la location. C'est quand même, c'est inconfortable pour moi. Okay? Mais la plupart des communautés, comme exemple Kawawa, ben, nous, on n'a aucun problème. On sait que les NASCAPI, eux, ont plus de budget, ce qui veut dire qu'ils sont conventionnés.
Oui.
Donc, pas de problème pour eux autres pour justement financer l'allocation des participantes. On a présentement 17 participantes de femmes à NASCAPI. C'est bien.
Ben oui, c'est super, puis c'est une belle mission. Je veux juste te relancer là-dessus, puis tu me disais, allez voir le site. Donc, je veux quand même donner l'adresse du site, parce qu'il y a une section pour pouvoir aller donner des dons. C'est une belle mission que vous avez. Donc, le cipp-fpic.com.
Répète ça.
Donc, le cipp-fpic.com. Donc, il y a une section pour aller faire des dons. Si on a des auditeurs qui... se sentent interpellés par votre mission, on vous invite à aller voir le site peut-être, puis peut-être faire un don.
Viviane,
plus
je vous écoute, Viviane, vous êtes une forme d'un dynamisme absolument incroyable, super compétente, c'est pas pour rien que vous avez reçu un doctorat honoris causa. Est-ce que vous travaillez facilement en équipe? Des fois, les gens qui sont aussi doués travaillent difficilement en équipe. Êtes-vous une boss difficile?
Non, écoute, moi, je suis... même si j'ai le titre de directrice, je ne suis pas la directrice derrière un bureau puis qui se met les deux jambes sur le bureau puis qui donne des ordres du tout. Je suis une fille de terrain, donc j'adore le contact, j'adore le travail d'équipe et c'est de cette façon que j'ai travaillé pendant 9 ans avec Femmes autochtones du Québec. J'ai toujours intégré les femmes, j'ai toujours pris leur parole parce que si on veut être des bonnes porte-parole, on doit vraiment être nourri par nos gens. Donc, je pense que c'est une des forces que j'ai, le travail d'équipe, l'inclusion de notre équipe et puis des gens en général, des participants aussi. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Je suis pas quelqu'un très protocolaire qui se monte la tête pour des titres. Au contraire, si je suis bien dans la job, j'adore la job et j'aime que la job se fasse vraiment bien.
Vous êtes d'un naturel optimisme, c'est évident. L'optimisme, vous l'avez au fond des tripes, au fond du cœur. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être déçu? Vous avez tellement de réussites qu'on peut se permettre de vous demander s'il y a des initiatives qui vous ont déçu?
Lorsque je pourrais être déçu, c'est les fameuses coupures gouvernementales que l'on subit. Toutes les organisations, les conseils de bande le subissent aussi. C'est plate parce qu'on on se fend en quatre pour l'amélioration des conditions de vie de nos gens. Et on est toujours confronté à ces coupures budgétaires. Déjà, les budgets sont vraiment en mode survivance, là, c'est restreint. Et en plus, tu subis des coupures et là, ça vient encore de trancher. Et qui est pénalisé? Ben oui, nous, mais en vrai, c'est vraiment les participants pour qui on le fait et pourquoi on le fait. C'est eux qui sont pénalisés, vraiment.
Hey Viviane, je peux-tu te poser une petite question sur l'actualité?
Oui.
Tu sais, là, le projet de loi 32, là, en ce moment, sur la sécurisation culturelle, je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir, 4 articles, 2 pages. La consultation, c'est 13 courriels. Puis, on reconnaît toujours pas le racisme systémique, ni le principe de Joyce, ni la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones. Ça te fait quoi, toi, quand tu vois ça?
Écoute, ça fait juste valider qu'on est encore dans un système de discrimination systémique coloniale. Le colonialisme est encore exercé aujourd'hui, même si elle est subtile aujourd'hui. Parfois, il y a des exemples lorsqu'il y a eu l'événement de Joyce et Jacqueline,
oui.
Les femmes autochtones disparues, assassinées. Là, le gouvernement va bouger un peu, va mettre sur pied une commission. Les femmes de Val-d'Or, vous vous souvenez, avec la commission vient, on sort des commissions, mais les résultats de ces commissions, les recommandations ne sont même pas appliquées. Puis même si elles sont appliquées, exemple, je sais qu'il y a eu, après les femmes autochtones disparues, assassinées, il y a eu ce qu'on appelle le cercle des femmes autochtones, fait par les propres gouvernements. Écoute, moi, je vois de loin que Tak Nwaden, quand je dis que Tak Nwaden, je vois de loin ce qui qui se manigancent derrière. Ce qui veut dire, c'est que, oui, les gouvernements vont s'asseoir avec les peuples autochtones, mais pour que pas les fonds aillent vers les Autochtones, mais qu'eux puissent avoir le contrôle et gérer. Donc, ils vont faire le pareil. Le Cercle des femmes, je l'ai carrément exprimé. Ils nous ont demandé nos priorités. Écoute, Alexis, ils nous ont demandé quelles sont nos priorités maintenant pour les 3 années à venir ou les 5. Moi, on a dit carrément, Femmes autochtones a dit le racisme, la discrimination et le racisme systémique envers les femmes autochtones. On ne peut pas mettre ça en priorité. Tu vois, on te demande c'est quoi ta priorité, mais elle n'est pas retenue parce que ça ne fait pas l'affaire de ce fameux gouvernement qui est en poste maintenant.
Est-ce que c'est pas le moment de muscler les démarches?
Moi, je pense que plusieurs Autochtones, soit les communautés, les organisations devraient faire un gros move, justement. On vit la discrimination et le racisme systémique, que ce soit par les femmes, par nos enfants, par nos hommes, etc., le milieu carcéral, on le vit encore, ces formes de colonialisme, ces formes d'assimilation aujourd'hui. Il devrait avoir un mouvement puis faire de la pression. Maintenant, je suis contente d'avoir vu, justement, quand on parle de sécurisation culturelle, que des médecins, maintenant, essaient de faire de la pression auprès de leur propre gouvernement. Wow! C'est juste l'Ordre des médecins, mais est-ce qu'on peut avoir d'autres organisations?
L'Ordre des médecins, l'Ordre des infirmières ont accepté le racisme systémique, ont co-écrit leur mémoire pour le projet de loi 32. Il y a bien des critiques sûrement encore à formuler envers eux, mais au moins, ils font cette démarche-là. À Viviane, on arrive à la fin de notre belle discussion. Encore une fois, c'est court.
Tellement content de vous entendre, Viviane. C'est un charme.
On discute avec toi. Viviane Michel, directrice des relations Premières Nations Inuit avec le Centre d'innovation pour les premiers peuples. On vous a donné l'adresse. On peut aller voir le site Internet. Puis, Viviane, je te souhaite bonne continuation. Je sais que tu es sur la route. Donc, Tickets Mitten pour ta participation avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et dans la prochaine demi-heure, Alexis, on s'en va à Toronto.
Oui, on va aller parler à Catherine Boivin.